Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Karim Ziabat, élu à Cergy, en charge de la démocratie participative et de la citoyenneté, ancien candidat aux élections législatives. Bonsoir.
Bonsoir, oui.
Alors Karim Ziabat, vous êtes un élu local, les villes sont confrontées à la crise énergétique, tout comme les entreprises, et j'imagine que vous êtes en contact avec des administrés qui s'inquiètent de voir leurs factures de gaz et d'électricité s'élever ces derniers jours. Est-ce que la France s'est bien préparée aux pénuries d'énergie et à la hausse des factures qui nous attend, notamment pendant cet hiver ?
Préparée, je ne crois pas. Puisque quand on voit aujourd'hui l'augmentation des tarifs qui débute déjà et qui va forcément s'accentuer dans les semaines et les mois à venir, forcément le pouvoir d'achat va en pâtir. Donc personne n'est prêt aujourd'hui à assumer cette hausse des tarifs. Mais malheureusement, nous n'avons pas vraiment le choix face à cette hausse. Et donc il y a des solutions. Les solutions, c'est celle de l'adaptation. L'adaptation, elle est possible pour certains et pour certaines. Mais malheureusement, pas pour tout le monde. Vous avez parlé effectivement à juste titre des collectivités. Moi, je suis directeur de cabinet dans une commune où, justement, nous avons décidé de nous adapter. Et donc, on a des mesures très concrètes qui sont, par exemple, la baisse des températures dans les bâtiments publics. Et donc, dans les bureaux, au lieu qu'il fasse 21 degrés, ben, à partir de demain, il fera 19 degrés dans les gymnases, dans les écoles. Et donc, c'est des sacrifices qui sont faits pour à la fois faire baisser les factures d'électricité et aussi pour contribuer à l'effort. Là où c'est plus compliqué, c'est chez les Françaises et les Français qui vivent parfois déjà dans des passoires thermiques, dans des logements qui sont très peu isolés, très mal isolés, et qui vivent déjà le froid de manière régulière tous les hivers et qui vont devoir encore faire plus d'efforts.
Est-ce qu'il faut augmenter le nombre de bénéficiaires du chèque énergie ?
Oui, très clairement, aujourd'hui, le chèque énergie touche qu'une infime partie des personnes. On est sur un seuil de 10 000 euros de revenus annuels. Je crois que le ministre de l'économie a évoqué une piste, une réflexion en tout cas, pour que le chèque énergie touche un plus grand nombre de personnes dès 2023. Moi, je crois que c'est une urgence. Il faut aller vite, très rapidement. Aujourd'hui, il y a quand même un chiffre qui est assez frappant, c'est que 10 millions de Françaises et de Français vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, c'est des gens qui, aujourd'hui, bénéficient de revenus inférieurs à 1 100 euros par mois. Aujourd'hui, avec moins de 1 100 euros par mois, on n'est même plus dans la survie. On est dans un niveau de vie qui est presque rudimentaire, avant même qu'on ait cette explosion des prix. Et quand aujourd'hui on voit l'inflation, quand on voit l'évolution des prix de l'énergie, c'est des gens qui ne vont plus réussir à vivre. Nous, on le voit aujourd'hui dans les collectivités, c'est des gens qui viennent très régulièrement au CCAS demander de l'aide, à la fois pour justement avoir des chèques énergie, pour avoir de l'aide alimentaire, et ça, c'est des choses et des situations qui ne sont plus vivables dans les quartiers.
Karim Ziabat, les Français vont devoir vivre aussi avec des risques de pénurie dans les supermarchés en raison de la guerre en Ukraine, mais aussi en raison de la sécheresse qui va avoir des conséquences sur la production de certains produits alimentaires, sans oublier aussi la chaîne du froid qui coûte beaucoup en termes d'utilisation d'électricité et de gaz. Comment gérer une telle situation anxiogène ?
C'est effectivement extrêmement compliqué, c'est-à-dire que d'un côté on entend l'explosion des tarifs et de l'autre on voit que dans les supermarchés les rayons ne sont pas pleins comme on a pu le connaître pendant des années. Moi je crois que d'abord il faut dire les choses très clairement. On a des gens qui aujourd'hui profitent de cette crise pour augmenter leurs tarifs, pour créer justement des pénuries et pouvoir bénéficier de la crise. C'est ce qu'on appelle les profiteurs de la guerre, les profiteurs de crise. Et d'ailleurs le président de la République les avait déjà dénoncés à plusieurs reprises. Et quand aujourd'hui on entend les interventions de quelqu'un comme Monsieur Leclerc qui intervient régulièrement, il explique bien que quand on a des pénuries de cacao, il n'y a aucun lien avec la crise ukrainienne. Et donc c'est qu'à un moment, on a des gens qui ont décidé de créer ces pénuries pour pouvoir justement jouer sur les prix et très concrètement profiter de la crise en se faisant plus d'argent. Donc il faut d'abord cibler là où on a des gens qui sont des profiteurs de crise pour pouvoir réguler le marché, parce que le marché a besoin de régulation. Et tant qu'on laissera le marché avec des déviances qui ne répondent qu'à l'offre et la demande, forcément, on va avoir des choses vicieuses comme cela. Donc maintenant, il faut que l'État puisse réguler le marché.
Karim Ziabata Sergi, vous êtes en charge de la démocratie participative. Est-ce que le Conseil national de la refondation lancé par le président Macron est une façon de redonner la parole aux citoyens, de leur permettre d'être associés aux décisions de l'exécutif? C'est une demande forte, notamment en cette période de crise.
C'est une demande très forte, effectivement, de la part des Français, mais c'est surtout la conséquence directe du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Si on se souvient un peu, le quinquennat qui s'est écoulé a été un quinquennat de verticalité absolue, c'est-à-dire qu'on a eu un chef de l'État et un gouvernement qui a pris des décisions sans concertation, en méprisant finalement les corps intermédiaires, je pense notamment aux syndicats, aux associations, qui font un travail remarquable sur le terrain, qui sont les plus proches du terrain, qui sont en capacité justement de faire remonter les problématiques, et qui ont été mis de côté, méprisés. Et donc aujourd'hui, moi, je suis heureux et satisfait de voir que le président de la République se rend compte peut-être de son erreur durant ces 5 prochaines années, donc j'attends de voir à quoi il va ressembler, mais il y a une chose qui est sûr, c'est que la confiance, elle est rompue. Et cette rupture, elle est extrêmement profonde. Et pour cela, il va falloir beaucoup œuvrer, il va falloir faire beaucoup de pédagogie sur les décisions politiques, il faut mieux expliquer, il faut avoir une transparence sur les décisions, et surtout, il faut intégrer, impliquer les citoyens, qui souvent sont des vrais experts, parce que on parle souvent des experts dans des domaines techniques, mais on a aussi des experts d'usage. Et les citoyens, chacun dans leur vie, dans leur quartier, dans leur quotidien, sont des experts d'usage. Et nous, c'est ce qu'on voit à Cergy, quand on veut mettre en place un projet, on ne peut pas maîtriser autant que quelqu'un qui vit un quartier ou qui vit une problématique de manière quotidienne et régulière. Et c'est pour ça que la concertation, il faut qu'elle donne la parole et puis il faut que la parole soit ensuite prise en compte dans les décisions et qu'on n'ait pas finalement une forme de mépris. Parce que le plus grand risque, c'est de concerter et de ne rien faire des informations et de ce qui nous est remonté par la concertation. Ce serait aggraver la rupture et la crise de confiance entre les élus et les citoyens.
Ces derniers jours, Karim Ziabat, on a appris que dans les transports publics, il y avait une pénurie de conducteurs, une pénurie considérée par certains comme gravissime. Je pense au RERC, au bus scolaire, au bus de la RATP. Je crois que le RERA, que vous connaissez bien, n'est pas concerné. Certains métiers sont en tension aussi, par exemple dans la restauration. On manque d'enseignants, d'AESH, d'infirmières. Comment l'expliquez-vous? Est-ce que c'est parce que les salaires ne sont pas assez élevé, parce que ces professions ne sont pas assez reconnues?
Moi, je crois qu'il y a un peu de tout. Moi, ce que je refuse d'abord, c'est de dire que les gens ne veulent pas travailler. On a souvent cette doxa un peu libérale, où on a des gens qui nous répètent en boucle qu'il y a du travail, que le travail existe, mais que c'est les gens qui ne veulent travailler, qui ne veulent pas travailler. Ça, c'est faux. Bien sûr qu'il en existe. Comme dans tout système, on a toujours une part, en tout cas, une proportion de gens qui, effectivement, souhaitent profiter du système ou qu'est-ce. Mais la majorité des gens, aujourd'hui, ce dont ils ont besoin, c'est à la fois plus de considération dans les métiers qui sont les plus utiles à la société, et on s'en est rendu compte pendant la crise sanitaire où on a parlé de ces premières lignes, on a parlé des infirmières, on a parlé des caissières, des transporteurs, tous ces métiers qui sont utiles et qui sont nécessaires pour que la société tourne. On les a applaudis, on les a félicités, on les a remerciés. Et finalement, aujourd'hui, on a toujours très peu de considération envers eux. Et la considération, elle est sociale, mais elle est aussi économique, financière. Et c'est la question des salaires. Quand aujourd'hui, on voit les salaires que touchent certaines personnes, et que ce soit notamment à la SNCF ou à la RATP, on a des gens aujourd'hui qui sont payés en dessous du SMIC, en deçà du SMIC. Et donc, c'est des professions qui, effectivement, aujourd'hui, sont extrêmement sous-payées. Nous, on le voit dans les collectivités. Sur les AESH, vous l'avez dit, sur les ATSEM, sur les animateurs, les animatrices, c'est malheureusement des professions qui sont extrêmement peu payés. Et donc on demande à des gens de faire des emplois qui sont très difficiles à concilier avec une vie familiale, avec des horaires qui ne sont pas faciles, qui ne sont pas adaptés, et avec en face des salaires qui sont très faibles. Et donc il faut à la fois de la considération, il faut une revalorisation des salaires sur ces professions-là qui sont utiles à la société.
Karim Ziabat, en Europe, l'extrême droite continue de progresser. En Suède, elle devient la deuxième force politique du pays. En Italie, une responsable politique qui est nostalgique de l'époque de Mussolini a la possibilité de devenir présidente du Conseil dans les jours qui viennent. Qu'est-ce qui peut contenir la montée de l'extrême droite en Europe et notamment en France ?
Alors, d'abord, il faut un sens des responsabilités. Notamment, on le voit en Suède. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est la droite qui s'est alliée à l'extrême droite pour pouvoir permettre justement à la fois à des idées d'extrême droite et à des responsables d'extrême droite d'arriver au pouvoir. Donc, il faut d'abord une responsabilité de tous les partis républicains, comme on dit. En l'occurrence, en France, pour le parti qui s'appelle comme cela. Et puis, surtout, il faut que les partis politiques arrivent à recréer de la proximité. Moi, je crois qu'une des plus grosses difficulté aujourd'hui, c'est le sentiment de déconnexion que les gens ont quand ils regardent le personnel politique, parce que d'abord le personnel politique ne leur ressemble pas socialement, etc., etc., mais aussi parce que la classe politique n'est pas en capacité de répondre à des problématiques que les gens vivent depuis des années. Et donc ce sentiment de déconnexion, qu'est-ce qu'il alimente ? Il alimente le populisme. Parce que le populisme, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des idées très simples, très simplets, avec des problématiques concrètes dans la vie des gens. Qu'on le veuille ou non, l'extrême droite parle aux gens dans les problématiques qu'ils vivent au quotidien. Et donc tant qu'on aura une classe politique qui n'est pas capable de cerner les problèmes et surtout d'y répondre avec du pragmatisme, avec du réalisme et en étant finalement en proximité, ça ne marchera pas. Et on y revient finalement à la démocratie participative, parce que moi je crois qu'il y a trois crises aujourd'hui. Une crise écologique, une crise sociale et une crise démocratique. Et les trois ne peuvent être solutionnés qu'en ayant une réflexion en synergie. Et c'est-à-dire que tant qu'on ne sera pas en capacité de résoudre la crise démocratique, la crise sociale et écologique, elle continuera.
Il y a aussi le sentiment pour les Français qu'ils risquent de vivre moins bien que par le passé. La crise écologique implique un changement de vie qui ressemble aussi à des sacrifices. On va vivre moins bien que nos parents.
C'est effectivement quelque chose qui nous attend. On ne va pas pouvoir vivre de la même manière, en tout cas moins bien, je ne sais pas, mais en tout cas vivre différemment. Un exemple très concret qui parfois peut hystériser les débats, c'est la question de la consommation de la viande. Par exemple, aujourd'hui, on le sait bien, consommer de la viande nuit à la fois à la planète, mais aussi à notre santé. Et donc, on pense, en se disant qu'on va devoir réduire notre consommation de viande, qu'on vivra moins bien que nos parents, mais finalement, c'est aussi un bénéfice pour notre corps. Là où effectivement il y a d'autres sujets qui vont nous faire vivre entre guillemets moins bien, c'est qu'il faut qu'on consente à des sacrifices. Mais là où moi je suis convaincu d'une chose, c'est que la politique des petits pas que nous devons chacun mener dans notre vie en consommant moins ne suffira pas. Il faut que les grandes entreprises, les plus gros pollueurs, aient un vrai cadre réglementaire. Aujourd'hui, tant que on a des entreprises comme Total ou comme d'autres entreprises qui polluent ce que un Français va polluer sur 50 ans en une journée, ça ne suffira pas finalement à cette politique des petits pas. Donc oui, il faut que les citoyens et citoyennes, chacun dans leur quotidien, réussissent à peut-être vivre différemment, consommer différemment, mais il faut aussi que les entreprises soient cadrées, soient normées. Et ça passe par une intervention de l'État. Pour moi, c'est le rôle premier de l'État d'intervenir à la fois sur le marché, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi sur les entreprises pour poser un cadre.
Alors, j'en reviens à l'extrême droite, Karim Ziabat. Éric Zemmour tente de revenir en politique après ses deux défaites à la présidentielle et aux législatives. Et dans sa dernière sortie, dimanche, il a mis en garde contre ce qu'il appelle un grand endoctrinement des élèves à l'école sur les thèmes LGBT et antiracistes. Que répondez-vous à ces accusations du polémiste sur l'école ?
Je vois qu'il essaie de revenir dans la vie politique et qu'il a malheureusement pas retenu les leçons de la démocratie, puisque la démocratie lui a indiqué le chemin de la sortie, à la fois à travers son résultat à l'élection présidentielle, lui qui se voyait déjà au second tour, et aussi aux législatives, puisqu'il n'a aucun député, ni même lui, ni même un autre, issu de son parti politique. Donc c'est un message clair des Français qui ne veulent pas ni d'Éric Zemmour, ni de ses idées au pouvoir. Ensuite, sur cette question-là de l'endoctrinement antiraciste et LGBT, se battre pour plus d'égalité et inculquer aux enfants dès le plus jeune âge que nous devons vivre dans une société qui soit juste et égalitaire, alors écoutez, c'est un endoctrinement que j'appelle de mes voeux et qui me satisfait finalement.
Karim Ziabat, la fête de l'humanité le week-end dernier a montré des divisions au sein de la gauche. Jean-Luc Mélenchon a critiqué la formule du communiste Fabien Roussel qui a dit préférer la gauche du travail à la gauche des allocs. Est-ce que la NUPES a du plomb dans l'aile ou bien ces différences finalement ne sont pas si insurmontables que cela ?
Moi, je crois que malheureusement, la NUPES a vocation à échouer, tout simplement parce qu'elle ne naît pas d'une convergence d'idées ou d'idéologie, mais simplement d'un accord politique pour remporter des sièges. Il faut se souvenir, à l'élection présidentielle, la gauche n'a malheureusement pas été capable de s'unir autour d'un programme commun à travers des idées communes. Là où elle a réussi à se réunir, à s'unir, c'est uniquement dans le cadre des élections législatives pour obtenir des sièges à l'Assemblée nationale qui permettent le financement des partis politiques. Puisque, comme vous le savez très bien, aujourd'hui, un candidat permet à son parti politique d'obtenir des financements, des subventions, que à travers une voix obtenue, il y a un peu plus d'1,40€ qui est directement versé au parti politique dont est issu le candidat et le député. Et donc tout ça, ce sont des logiques presque politiques. Et donc c'est un accord politicien qui a permis à la NUPES d'être sur cette dynamique-là, et aujourd'hui on voit bien les dissensions. Ce que moi j'appelle de mes voeux, c'est d'avoir une gauche qui soit unie, mais unie autour des idées. Et tant que la gauche n'est pas capable d'abord de cerner quels sont les enjeux de cette nouvelle société, ce dont on parlait tout à l'heure, ce sentiment de déconnexion qui fait que les gens n'y croient plus, ça ne marchera pas. Et même si dans certains quartiers, dans certaines villes, la NUPES a obtenu un bon score, moi j'invite les élus et les observateurs de la vie politique à regarder les taux d'abstention. Parce que quand on regarde les taux d'abstention dans ces villes-là, on peut pas satisfaire de l'élection d'un candidat de gauche. Moi, ce que je dis quand on est de gauche, c'est que on doit répondre à la crise démocratique. Et pour répondre à la crise démocratique, il faut réussir à convaincre les Françaises et les Français d'aller vers les urnes. Et si on n'y arrive pas, c'est que ce qu'on propose n'est pas en phase avec ce que les gens vivent, ou en tout cas, on n'arrive plus à répondre à cette confiance disparue.
Vous avez été candidat aux dernières élections législatives. Qu'avez-vous retenu de cette expérience, puisque vous n'avez pas été élu député ?
Alors, beaucoup d'enseignements. D'abord, effectivement, que cette crise démocratique, elle est extrêmement profonde, que malheureusement, les gens vivent un désarroi extrêmement profond. Moi, ce qui m'a toujours marqué, qui m'a le plus marqué, c'est toutes ces sessions de porte-à-porte, c'est-à-dire que tous les soirs, pendant 3 mois, j'allais à la rencontre des habitants pour échanger avec eux, échanger sur leurs problématiques, sur leur vie quotidienne, sur ce qu'ils vivent, sur leur vision de la politique. Et le sentiment que j'avais, c'était beaucoup de désarroi. J'ai rencontré vraiment des femmes et des hommes qui n'y croyaient plus. Pas seulement en la politique, mais en leur vie, qui subissaient la vie, qui avaient des situations tellement dramatiques, qui survivaient vraiment avec presque rien. Et souvent, c'est des gens comme ça qui nous rappellent à quel point on doit s'engager en politique. Et moi, j'ai le témoignage d'une personne moi qui m'a extrêmement marqué. J'ai échangé avec une dame qui avait 72 ans, qui m'expliquait au fur et à mesure qu'elle devait garder des enfants pendant les vacances scolaires, qu'il lui arrivait de faire du ménage pendant la restauration scolaire dans les écoles, parce que sa retraite ne lui permettait pas de vivre, ne lui permettait même pas de payer son loyer. À 72 ans, rendez-vous compte. Elle me disait, moi, je rêvais à la retraite de partir en vacances, et finalement, aujourd'hui, la seule chose que je peux faire pendant les vacances, c'est faire des petits jobs pour essayer de continuer à survivre. Et donc, pour ces gens-là, moi, je crois qu'il faut qu'on se batte, qu'il faut qu'on s'engage en politique pour réussir vraiment à changer leur vie.
Et donc, c'est la raison pour laquelle vous êtes de gauche résolument.
C'est ce qui alimente mon carburant de manière quotidienne. Pour moi, quand on est de gauche aujourd'hui, il faut qu'on se batte pour la justice sociale, il faut qu'on se batte pour l'égalité, il faut qu'on se batte pour toutes ces personnes qui sont laissées sur le carreau depuis des années et des années, parce que c'est pas nouveau, qu'on n'a jamais compris, qu'on a malheureusement très peu cerné, et qui aujourd'hui sont les premières victimes des crises qu'on est en train de vivre.
Merci Karim Ziabat. Je rappelle que vous êtes élu à Cergy, en charge de la démocratie participative et de la citoyenneté, ancien candidat aux élections législatives. Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.